enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce matin. Merci, Saint-Esprit. Je te demande de toucher nos cœurs. Seigneur, tu vois nos vies, tu vois le poids qu'elles ont devant toi. Nous avons goûté au poids dans ce moment de louange de ta présence. Seigneur, tu désires plus qu'un culte, tu désires des vies qui sont connectées à toi. Je veux te prier dans ce mois que nous connaissions, Seigneur, un renouveau dans l'esprit de prière et dans l'esprit de ta présence. Fais-nous goûter au bonheur de ta présence au nom de Jésus. Amen. Alors le sous-titre que vous voyez ici, ça s'appelle « Selah », c'est-à-dire c'est un texte que nous voyons. C'est un mot qui revient souvent dans les psaumes, le mot « Selah » qui veut dire « pause » ou qui veut dire « période ». En vieux français, c'est un point-virgule, JD qui n'aime pas du tout les points-virgules, mais en vieux français, c'est un point-virgule, c'est-à-dire c'est on met une pause. Et ce mot « Selah », on ne lit pas, je sais pas, quand vous lisez les psaumes, on voit marqué « pause » et on dit « pourquoi est-ce qu'ils ont écrit « pause » ?» En fait, c'est parce que c'était chanté et il y a 39 mentions de ce mot « pause ». C'est là, dans les psaumes, 39 mentions, c'est mentionné aussi dans Habacuc, c'est mentionné aussi dans Job, je vous en parlerai dans quelques secondes, mais 39 mentions de ce mot « pause », c'est là, qui veut dire, justement, arrête et écoute. Arrête et écoute. C'est un moment dans lequel on peut s'arrêter. Il y avait trois raisons, trois utilités à cette pause. Un silence, servant à méditer sur ce qui vient d'être dit. Parce que souvent, quand on dit une poésie ou quand on dit un psaume, on faisait une pause, et cette pause, on éduquait les gens. Qu'est-ce qu'on fait en pause? On s'arrête pas seulement, on repense à ce qui vient d'être dit. Deuxième utilité, c'est un moment de repos d'un rythme qui devenait rengaine. Ça veut dire, il y avait un rythme, et à un moment donné, on faisait un arrêt. Et à l'arrêt, ceux qui chantaient mécaniquement s'arrêtaient pour dire, c'est quoi là ce qui arrive? On commence à être attentif de nouveau parce que un moment de pause nous rend attentif dans un rythme qui fait un petit peu rengaine. Puis, ensuite, c'était une introduction à un changement de rythme ou de mélodie. Et c'est pour ça que dans Job, au chapitre 28, au verset 16, le mot « Selah », pause, est appelé et est traduit par « évaluation ». Ou peser un poids d'or. Mais une évaluation. On commence à peser ce qui vient d'être vécu. C'est très chargé de sens, ce mot pause. C'est très chargé de sens parce que dans nos vies, nous avons besoin aussi de moments c'est là, de moments pause. C'est une période mise à part pour se consacrer à la prière ou au jeûne ou à l'étude. Quand nous avons des vacances, comme Dieu, j'aime bien m'arrêter, regarder ce que j'ai fait. Puis j'aime bien, vous savez, je crois que Dieu fait création, récréation. C'est ce que j'enseigne beaucoup aux pasteurs, création, récréation. Mais récréation, c'est à la fois repos, c'est jouer, mais c'est aussi retrouver un nouveau souffle. Retrouver un nouveau souffle. Et c'est ce que je vous propose de faire dans ces moments, pour nous aussi d'avoir des pauses dans lesquelles on profite d'un moment de silence pour méditer ce que Dieu nous a dit. Pendant les temps écoulés, les mois écoulés, de quitter la rengaine d'une vie du 21e siècle qui est remplie d'obligations, de stress. On est rythmé par les choses qui nous arrivent, mais au milieu de tout ce rythme, des choses qui pleuvent sur nous, des circonstances, des obligations, tout arrive vers nous. À un moment donné, il faut prendre une autorité et dire « pause, j'arrête et j'écoute ». Et c'est pour ça que dans nos vacances, avec Isabelle, je commençais à vous dire, on prend toujours quelques jours à la fin pour faire pause, c'est-à-dire quelques jours de retraite. Alors parfois, par exemple la dernière fois qu'on l'avait fait en octobre, début octobre, c'était pour notre anniversaire de mariage, on a pris 5 jours de pause. Un jour était vacances, le jour d'anniversaire de mariage, c'était un dimanche en plus, 1er octobre. Mais les autres jours, on avait études 3 fois par jour, chacun d'entre nous. Mais c'était pause. Et 2 jours, c'était jeûne et prière, c'était pause. Et quand on fait ce genre de choses, quelque chose du souffle de Dieu revient au-dedans de nous. Il y a un moment d'arrêt et il y a une évaluation de ce que l'on vit, et on commence à vivre ce que Dieu lui-même a vécu, parce que cette pause, c'est un rythme divin. Exode 31:17 nous dit, en 6 jours, Yahvé ou l'Éternel a fait les cieux et la terre, mais le 7e jour, il a chômé et a repris haleine. C'est version Bible de Jérusalem, mais la version Sommer nous dit, il a cessé de travailler pour reprendre son souffle. Et le mot souffle, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse 2:7 quand il est dit, il a soufflé en l'homme un souffle de vie. C'est le mot esprit. Il a mis en l'homme un souffle de vie. Quand je dis homme, j'embrasse toutes les femmes, comme d'habitude. Donc, comprenez, être humain. Donc, il a soufflé en l'être humain un souffle de vie. C'est exactement ça. Le but de la pause, de reprendre souffle, de retrouver une nouvelle mesure du Saint-Esprit. Dieu lui-même l'a fait. La raison pour laquelle Dieu s'est reposé le 7e jour, ce n'est pas parce qu'il a été fatigué. Dieu ne se fatigue pas. Dieu s'est arrêté parce qu'il nous indique un rythme dans lequel nous sommes renouvelés après l'activité. L'activité est bonne, mais l'activisme a tendance à nous faire perdre totalement l'énergie, et ce moment de repos nous permet de retrouver haleine, nous permet de retrouver une plénitude du Saint-Esprit. Une plénitude du Saint-Esprit souffla en lui un souffle de vie. C'est ce même texte ici qui nous dit, donc le Seigneur lui-même a repris haleine, ou il a repris son souffle. Dieu lui-même a repris comme une nouvelle mesure de son esprit. C'est comme si Dieu le Père lui-même, Jésus lui-même, après avoir créé, avait besoin de retrouver une pause. Et c'est Dieu lui-même qui est l'initiateur des pauses. Dieu n'a jamais voulu que notre vie soit une vie d'un rythme qui n'arrête jamais, d'un rythme qui fait qu'on est tout le temps en train de subir événement sur événement sur événement sur événement. Nous finissons par devenir des robots qui vivons une vie de pilotage automatique si nous ne faisons pas à un moment donné une pause pour pouvoir dire « j'ai besoin de reprendre souffle, j'ai besoin de retrouver inspiration, j'ai besoin d'un renouveau dans le Saint-Esprit ». Juste avant de partir au Canada, Isabelle et moi l'avons fait encore, comme je vous disais, pendant quelques semaines, et c'était vraiment bénédiction. Une semaine, on a fait 3 soirées, jeudi, vendredi, samedi, puis on a arrêté dimanche, puis on a repris lundi, mardi, mercredi, des soirées. Jeûne et prière et pause. À ce moment-là, tu n'écoutes pas la télé, tu n'écoutes pas la radio, tu lis pas les journaux. Tout est concentré sur « j'ai besoin de retrouver un souffle, le souffle de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de chercher sa parole. J'ai besoin d'écouter ce que disent d'autres hommes de Dieu. On a besoin de crier à Dieu, de le retrouver lui-même. » Et ce moi dans lequel nous cherchons la prière qui ouvre le ciel, ce n'est ni Rodrigue, ni Philippe, ni Yann, ni Richard, ni Christiane, ni personne d'autre, ni l'équipe de louange, ni même Silouane Ponga, ce n'est pas un être humain qui peut nous le donner, c'est chacun et chacune parmi nous qui peut décider. J'ai besoin de retrouver un nouveau souffle. J'ai besoin de prendre 2 soirées à part, ou 3 soirées, dans lesquelles je vais décider. En rentrant du travail ce soir-là, je ne mange pas. Et je mets ce moment à part pour dire j'ai besoin d'un nouveau souffle. J'ai besoin de retrouver ce rythme divin. Il y a tant de personnes qui ont pris des périodes de mise à part dans l'Écriture. Moïse fait partie de cela dans Exode 24, Exode 34. 2 fois, il a pris 40 jours comme une période de mise à part. Je vais vous dire que nous avons été très bénis dans cette église qui devient notre église bientôt, à Montréal. Mais c'est pas nécessairement, dimanche dernier, je prêchais à 2 cultes différents. Le premier, il y avait 1500 personnes. Le deuxième, il y avait 2000 et quelques personnes. C'est très enthousiasmant de voir 20 personnes se donner au Seigneur au premier, 40 au second. J'étais béni de ça, très béni. Mais c'est quand même pas ça mon point le plus fort de ce temps-là. C'était pas non plus le culte la semaine avant, une église de 900 personnes aussi, les gens super bénis. C'était même pas tous les cours que j'ai donnés à ITF devant 100 étudiants sur le cours de leadership, devant 50 étudiants, le cours de théologie pastorale sur l'église. C'était une grande bénédiction pour moi. Je rêvais de pouvoir enseigner des étudiants qui viennent de tous les pays francophones. Et j'étais là, et en plus, retrouvant notre disciple du Burundi qui faisait un voyage à Toronto, il est venu spécialement pour le cours. J'avais comme des clins d'œil qui me bénissaient profondément. Beaucoup d'invitations, beaucoup d'amitié, beaucoup de beaux contacts avec les pasteurs sur place, tous les différents pasteurs. Il y a environ 100 personnes qui sont salariées à l'Église Nouvelle Vie. Donc, si vous dire le nombre de rendez-vous qu'on pouvait avoir à ce moment-là, c'est pas non plus les 200, la réunion avec les 200 leaders des groupes de maison où on me demande de donner du leadership, même si tout ça, ça me bénit profondément. Mais il y a eu un temps spécial. Il y a eu un temps qui m'a touché, qui a retenu mon attention. Et ce temps, c'est 2 jours de mise à part avec 50 pasteurs qui venaient du Québec. 2 jours dans une petite maison sans manger, en buvant, et dans lequel nous avions 3 rendez-vous avec Dieu ensemble chaque jour, comme dans la chambre haute. Le matin, 9h, ou 9h on arrivait, à 10h ça commençait jusqu'à 12h30. On reprenait à 2h jusqu'à 4h. On reprenait à 7h jusqu'à 9h. Et de vivre 2 jours comme ça, de la recherche de Dieu, de la présence de Dieu, de la mise à part, voir 50 hommes et femmes de Dieu qui disent « Seigneur, nous avons besoin de te reprendre souffle. Nous avons besoin d'arrêter parce que les pasteurs, c'est comme tous les humains. Ils vivent aussi activité sur activité sur activité. Et il faut prendre une autorité à un moment donné pour dire « Pause. J'ai besoin de reprendre souffle. J'ai besoin de me mettre à part et de retrouver l'énergie de Dieu lui-même au-dedans de moi. » Et ces 50 hommes et femmes qui criaient à Dieu, et particulièrement le premier jour, l'après-midi, on a vécu une chambre haute. Une chambre haute. D'après ce que le pasteur dit là-bas, c'est le meilleur jeûne qu'ils ont jamais connu. Ça m'a rassuré, parce que je trouvais que c'était un des points forts dans les moments de vie spirituelle de toute ma vie. Mais je crois que ça, ça fait une différence. Vous savez, je suis dans mes derniers mois ici. Donc les choses que je vous dis dans ces mois-ci, je prêche pas juste pour prêcher. Je prêche en me disant, qu'est-ce que j'aimerais laisser? Je suis comme en train de laisser un testament ici. C'est comme si je suis en train de dire, je vous assure, les prédications que je vous laisse dans ces derniers mois, c'est les choses essentielles que j'aimerais vous laisser. Les choses fondamentales, les choses les plus précieuses que j'aimerais vous laisser. Comme le mois dernier, ce que je vous disais sur l'étude de l'Écriture. Mais ici, c'est prenez des temps de mise à part pour retrouver un nouveau souffle. Quand je vois ce que ces pasteurs faisaient, ça me rappelle quand dans Exode 39, verset 25, Dieu dit à Moïse, mets les sacrificateurs à part pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, les prêtres devaient se mettre à part dans une période de consécration. Et cette période, c'était un temps excellent de purification, de consécration, de remplissage, d'écoute. Au début de notre église à Montauban, l'ancienne église où j'étais, nous avons pris 7 jours. Nous n'avons pas jeûné pendant 7 jours, mais nous avons pris 7 jours de prière. Matin, après-midi, soir. On mangeait aussi, on avait des moments fraternels, mais on rentrait pas chez nous. 7 jours, les 4 anciens de l'église en train de chercher la face de Dieu pendant 7 jours. C'était, il fallait le faire, mettre 7 jours à part, mais on l'avait tous fait sur nos vacances. C'était au début de l'église, personne n'était salarié, personne n'était à plein temps. Mais pause. Parce qu'on a besoin de retrouver un souffle divin. On a besoin que Dieu vienne nous toucher dans nos vies. Je voudrais vous dire aussi que tout au début de l'église, ici, Clé, en 1995, nous étions aussi 4, de Montauban, venir ici. On a pris 3 jours à part pour jeûner et prier ensemble, pour chercher la face de Dieu. Moi, j'ai continué quelques jours pour faire une semaine ensuite. Mais ces moments de pause sont des moments de consécration qui nous permettent, comme on l'a vu tout à l'heure, on arrête un rythme de rengaine et on va passer à un nouveau rythme, une nouvelle étape. On veut voir quelque chose de plus fort. On a besoin d'un nouveau volume, d'un nouveau voltage du Saint-Esprit, une augmentation de sa mesure. Et à ce moment-là, on fait une période, c'est là. On fait une période mise à part pour que Dieu se révèle à nous. C'est ce qu'ont fait les 120 dans la chambre haute. Tous d'un commun accord, acte 1, 14. Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est ce qu'ils ont fait dans la chambre haute. Et il y a cet appel de Dieu, je le crois, à nous mettre à part d'une façon régulière. Tout au début de mon appel au ministère en 1980, le Seigneur m'a appelé à me mettre 3 jours à part de jeûne et prière. Alors moi, je voudrais vous dire une chose. Au début, le jeûne et prière, je faisais partie de la catégorie des gens qui croient avoir un estomac spécial. Au début, oui, jeûne. C'est-à-dire que quand je lisais les gens qui arrivaient à jeûner 40 jours, une semaine, 21 jours, moi, quand je faisais une journée, j'avais tellement mal à l'estomac que je me disais, il y a des gens qui doivent pas être faits pour le jeûne. Et moi, je sais pas pourquoi j'en fais partie. Le premier jeûne que j'ai fait, j'ai jeûné avec la petite sœur d'Isabelle. Alors, comme elle devait avoir 15 ans ou ce moment-là, moi, j'étais grand, j'en avais 17 et demi. Mais elle avait 15 ans, donc elle commence à jeûner. Je dis, bon, je jeûne avec toi. Midi, arrive, oh, j'avais faim. Je buvais de la ricorée toute l'après-midi, que avec de l'eau, mais. Je dis, on a le droit de goûter quand on jeûne. Je savais pas comment c'était. On a le droit de goûter en fin d'après-midi. Non, t'attends le repas du soir. J'arrive au repas du soir, et Nathalie, sa petite sœur, dit, ben moi, je mangerai que demain matin. Bon, ben, je te suis. Elle est petite, hein, par rapport à moi. Je vais pas me laisser doubler par une petite. Donc, j'ai dit, j'y vais aussi, avec elle. Là, ma belle-mère, comme, fait un superbe gâteau le soir. C'était vraiment la torture, vous savez, la torture de belle-mère. Et puis, je vais au lit, et elle, moi, je dormais dans la salle à manger, parce que sur un canapé, c'était une grande maison, il y avait des chambres partout, mais moi, je dormais là. Et quand je dormais là, elle était gentille, elle m'avait gardé ma part de gâteau, juste dans le placard de la salle à manger. Alors, je me suis endormi, je me réveille, minuit et demi. Non, c'est quand même un peu juste, etc. Puis, j'essayais de me rendormir, mais à 4 heures du matin, j'aurais mangé le buffet avec, j'aurais mangé l'armoire avec, j'ai ouvert, j'ai rendu grâce, j'ai mangé mon gâteau, c'était terrible. Et ensuite, j'ai commencé à jeûner comme ça, chaque mois au collège biblique. Je sais pas pourquoi, ça m'arrivait, bon, au début, une fois par mois. Aujourd'hui, tu jeûnes. D'accord. Mais c'était toujours le jeudi. Et le jeudi, c'était le seul jour au collège biblique qu'on avait droit à des gâteaux. Ah, c'était terrible. Isabelle me gardait mes gâteaux, pareil, dans le placard. Et à 4 heures du matin, je me réveillais, je ne pouvais jamais attendre le petit déjeuner. Je me levais, je voyais les gâteaux. Toi, tu vas servir à la gloire de Dieu. Et voilà, il se faisait dévorer par un disciple du Seigneur. C'est une belle destinée pour un gâteau. Mais en tout cas, pendant longtemps, c'était difficile. Et voilà un jour, 3 jours de jeûne arrivent. C'était spécial ce jour-là. Le deuxième jour, j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'avais une révolte physiologique terrible. C'était des sueurs, c'était terrible tout ce qui m'arrivait. Et puis en continuant, j'ai été tellement, mais tellement spirituellement dégagé. Tellement une offensive, un renouveau d'énergie. Quelques mois plus tard, j'ai remis ça. Et c'était vraiment un grand sujet de joie. Et puis, le Seigneur m'appelle au ministère de façon assez spéciale en août 82. Et comme j'allais être officiellement dans le ministère, pasteur, rémunéré au 1er janvier 1983, rémunéré pas grand-chose, mais rémunéré un peu, alors j'ai décidé 7 jours de consécration, 7 jours de jeûne et prière, mes premiers 7 jours. Et les 3 premiers, c'était dans un chalet à la montagne tout seul. Dieu m'a profondément travaillé. Les 4 jours qui suivaient, j'étais revenu à la maison entouré de gens. Donc par moments, c'est bien, par moments quand on jeûne, ça aide plus à être tout seul. Mais c'est 7 jours-là, période de consécration, période de mise à part. Et régulièrement dans toute ma vie, chaque fois qu'il y a eu une période un peu charnière, je savais, j'ai pas le souffle nécessaire. J'ai pas la mesure nécessaire pour passer ce cap. Et chaque fois, je me prends une période de mise à part et je vois que ces périodes de mise à part nous aident tout le temps à trouver un nouveau souffle dans la marche avec Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous y inviter. Il y a eu un jeune homme qui a vécu une période de mise à part, il s'appelait Daniel. 2 périodes de mise à part, ou 3, mais je vais te réciter 2 ici, Daniel 9 et Daniel 10, 2 périodes de jeûne, et il s'agit d'un combat pour sa destinée. Écoutez bien ceci, Daniel veut dire « Dieu est juge ». Mais Daniel, quand il était à Babylone, le roi de Babylone l'a appelé Belshazzar, qui veut dire c'est Bel, le dieu des Babyloniens. C'est Bel qui régnera. Vous imaginez la honte pour un disciple de l'Éternel d'être appelé c'est Bel qui régnera. Et chaque fois qu'on l'appelait, on l'appelait en disant c'est Bel qui régnera. Et lui, il répondait. Si vous lisez le livre de Daniel, vous verrez que jamais il s'appelle lui-même Belshazzar. Il dit toujours moi, Daniel. Il y a un combat pour sa destinée. Il y a un combat pour son identité. Eh bien, moi, je peux vous dire, dans ces périodes de mise à part, ça nous aide à retrouver l'identité que Dieu veut pour nous. Parce que sur ta vie, il y a un combat. Alors, ici, c'est quelque chose de puissant. Il est en train de dire, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ma vie, sur mon peuple. Dieu réalisera sa destinée dans ma vie et dans mon peuple. Ce n'est pas Bel qui régnera. Moi, Daniel, Dieu jugera par-dessus ce que Belshazzar est en train d'essayer de me dire, ce que le roi est en train d'essayer de dire comme nom sur ma vie. Laisse-moi te dire, le diable essaie de te donner un autre nom, un nom de déshonneur, un nom d'incapable, un nom d'idolâtre, un nom d'impuissant, un nom d'une personne qui fera aucune différence. Mais le nom du Seigneur sur toi demeure. La parole, la promesse du Seigneur sur toi demeure. Et toi, tu dois choisir de dire, moi, Daniel, c'est Dieu qui jugera. Je ne porterai pas le nom d'une idole. Je ne porterai pas la dépression qui est là en France. Je ne porterai pas ce négativisme. Je ne porterai pas ce blues qui est dans ce pays. Moi, serviteur du Seigneur, je continuerai à dire, la joie du Seigneur est ma force, comme nous l'avons proclamé ce matin. Je ne subirai pas la pression du Dieu du siècle présent, de l'esprit de la dépression, du négativisme. Mais moi, j'élèverai ma tête et ma voix vers le Seigneur pour proclamer, sa parole se réalisera. Chaque moment de jeûne, chaque moment de mise à part, joue sur ta destinée. C'est pour ça que le diable lutte dans ces moments de mise à part et ces moments de jeûne. Regardez comment Jésus arrive dans Luc 3, il fait ses 40 jours de jeûne. Et c'est encore un combat pour sa destinée, comme pour Daniel. Satan vient vers lui, le diable vient vers lui et lui dit, tu recevras les royaumes de la terre, tu le sais bien. Regarde, tu peux les avoir de ma main sans passer par la souffrance, le renoncement, la croix, la honte, la douleur. Ça fera mal la croix. Moi, je te les donne tout de suite. Jésus jouait sa destinée. À chaque fois que tu te mets à part pour le jeûne et la prière, tu sens un combat, tu sens quelque chose qui est, c'est vraiment difficile, tu sens que tu n'as pas envie, ta chair veut pas, c'est sûr, mais au-delà de ta chair, au-delà de ta nature, il y a un enjeu. Il y a un enjeu à ce moment-là, un enjeu sur ta destinée. Et c'est pourquoi Jésus lui-même, à 10 reprises dans les évangiles, il choisit de se mettre en retraite. 10 périodes de retraite mentionnées dans les évangiles. Voyez combien ces moments sont ciblés parce qu'ils représentent un temps d'enjeu décisif pour nos destinées. C'est pourquoi Jésus lui-même choisissait de se retirer dans les déserts et là, il priait. Jésus choisissait de faire pause. Pourtant, il servait. Pourtant, il y avait du fruit. Pourtant, il y avait du succès, on pourrait dire, à œil humain dans ce qu'il faisait. Mais le succès que Jésus ciblait n'était pas juste des foules, n'était pas juste des guérisons, n'était pas de compter le nombre de conversions, mais le succès que Jésus ciblait était de rester dans la droite destinée de ce que Dieu le Père avait pour lui. Jésus voulait juste être correspondant avec ce que Dieu le Père avait rêvé pour lui. Au commencement de la création, avant la fondation du monde, Dieu a fait un rêve. Et ce rêve, tu en fais partie. Et Dieu a rêvé de ta destinée. Quand tu as vu le jour sur cette terre, Dieu a rêvé de l'accomplissement de ta destinée. Le jour où tu as dit oui à Jésus, Dieu a pleuré de joie de te voir revenir réconcilié avec lui. Et Dieu continue à rêver de l'accomplissement de ta destinée. Dieu continue à rêver de toi positivement parce qu'il est bon, parce qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Il a des projets de gloire pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi ces projets-là sont l'enjeu d'un conflit. Notre destinée est l'enjeu, un enjeu décisif. C'est pourquoi les périodes de mise à part nous aident, comme lorsque Daniel a jeûné, comme lorsque Jésus a jeûné. Il s'est mis à part pour dire, non, ce n'est pas Bel qui régnera, mais Dieu sera mon juge. Dieu aura le dernier mot dans ma vie. C'est pourquoi je nous appelle dans ce mois de février à choisir chacun et chacune ici une période de mise à part. Moi, je voudrais vous suggérer aujourd'hui de prendre la décision en cette fin de culte, de prendre 2 soirées au moins. Ça, c'est le tarif minimum. 2 soirées au moins pour quiconque ici dans lesquelles vous allez décider. Je vais prendre 2 soirées de jeûne et prière. 2 soirées consécutives. Consécutives. Pour que ce soit pour qu'il y ait un petit bloc là-dedans. 3 soirées seraient encore mieux. 2 jours seraient fantastiques. 3 jours, c'est merveilleux. 7 jours, c'est glorieux. 40 jours, j'ai jamais réussi. Mais, prends une période de mise à part. Et le moins, c'est 2 soirées ensemble. Paul lui-même, 3 années en Arabie, nous dit dans 2 Corinthiens 11, 27, il faisait des jeûnes fréquents. Dans toute l'histoire de l'Église, c'est une pratique de tous les hommes et femmes de Dieu. Quand vous lisez leur biographie, vous le verrez. C'est George Muller qui dit, Dieu commande les pauses d'un homme juste de la même façon qu'il conduit ses pas. Dieu commande les pauses d'un homme juste. Et si nous écoutons Dieu, des moments il nous commande, mets-toi en pause. Ça veut dire parfois en repos, ça veut dire aussi un repos dans lequel tu te laisses travailler. Tu as travaillé, maintenant tu te laisses travailler. Et actuellement, Les chrétiens manquent de ces périodes de mise à part et la superficialité nous a atteints. C'est George Barna, qui est un statisticien américain, spécialiste de la recherche en sociologie et en sociologie religieuse, qui dit « La chose remarquable des leaders chrétiens de notre temps, et c'est encore plus valable pour les chrétiens de notre temps, c'est leur incapacité à prendre des retraites spirituelles, seules ou en groupe, juste pour chercher Dieu. Juste pour chercher Dieu. Et je crois que ça nous conduit à la superficialité, à la légèreté. Devenons des personnes spirituellement légères, on manque de poids. Est-ce que vous faites partie des gens qui passent leur temps juste à écouter les humains et qui finissent par avoir la marque de l'écoute des humains, sans jamais écouter la voix de Dieu lui-même, hein? Si vous voyez ce jeune homme, il a sur le côté une marque de téléphone portable qui est là, tellement il écoute. Vous voyez sa marque téléphone portable ici, sur sa joue. Il a la marque d'un téléphone portable tellement il écoute les humains. Mais qui n'écoute jamais la voix de Dieu. Alors, un jour j'ai lu une histoire qui m'a vraiment touché. C'est Charles Swindoll, l'un de mes écrivains favoris. Il raconte qu'à une période où son travail lui demandait bien plus que ce qu'il pouvait assumer, alors il avait tendance à s'irriter pour tout. Et sa famille le voyait passer comme une tornade. Il arrivait, puis il était en retard, mais il n'avait pas le temps de se poser parce que il allait être en retard pour la prochaine activité dans laquelle il partait, en disant « Priez pour moi, je suis pas préparé pour cette nouvelle activité. » La seule chose qu'il pouvait dire dans sa famille, c'est « Excusez-moi d'être en retard, priez pour moi parce que je suis pas encore préparé pour l'autre. » Et il passait comme une tornade sans arrêt. Alors, sa fille voyait que il exigeait le silence, etc. Alors un jour, elle avait quelque chose d'important à lui dire. Elle s'est approchée de lui, elle avait une grande tension émotionnelle, puis elle a dit « Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire et j'en ai pas pour longtemps. » Alors, le papa a répondu « Mais tu sais, tu peux parler lentement. » Ce à quoi elle a dit « Alors, écoute lentement. » Cette parole de cette petite fille m'a vraiment touché. Parce que moi aussi, j'aimerais bien que Dieu me parle, mais je dois apprendre à écouter lentement. Et bien souvent, j'aimerais que le Seigneur me parle par mail, par fax, par téléphone portable, par SMS, en abrégé, s'il te plaît, Seigneur. J'ai vraiment envie d'une parole de Dieu, mais vite. Et ça ne marche pas. Pause, c'est là. Apprends à ne pas te précipiter. C'est ce que le Seigneur m'a dit comme parole au mois d'octobre. Et depuis, je n'apprends que leçon sur leçon sur leçon. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Parce que la Bible nous dit, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. On manque le but, hein. Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette, à la misère. Même celui qui se dépêche d'acquérir une propriété, nous dit un autre proverbe, ne sera pas béni à la fin. Donc il y a une faute dans la précipitation. Et Ecclésiaste 9:11 nous dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course ne revient pas au plus rapide. C'est étonnant peut-être, mais le meilleur, c'est pas le plus rapide, c'est celui qui fait le meilleur travail à la fin. Vous savez, dans le sport, c'est pas l'équipe qui marque le premier but, le premier panier, le premier essai au rugby qui gagne à la fin. Marquer à la première minute, ça garantit pas la victoire. Moi, quand j'étais élève à l'école, j'ai jamais compris pourquoi, quand je finissais le premier, j'aimais être rapide. Ah, quand je finissais dans le premier, j'étais super content. J'amenais ma copie sur le bureau de la maîtresse, tac, je posais, j'étais sûr, elle va me mettre 2 points de plus. Jamais. Elle me disait, si tu t'étais pas dépêché autant, au lieu d'avoir ça, tu aurais eu 2 points de plus. T'es un bon élève, mais tu fais des erreurs d'étourderie parce que tu veux aller trop vite. Et moi, quand elle me disait, tu veux aller trop vite, elle, c'était un reproche. Moi, c'était un compliment. Je veux aller trop vite. J'étais super content. La maîtresse m'a dit, je veux aller trop vite. N'empêche, à cause de ça, le nombre de points que j'ai perdu. Depuis, j'ai perdu d'autres points. Le point de permis. À cause du fait que je veux aller trop vite. Je sais plus combien j'en ai. Je roule par la foi en ce moment, sans regarder mon compte. Mais c'est vrai que là, depuis quelques mois, j'apprends cela de plus en plus fort. Et j'ai appris des leçons cuisantes en voulant me précipiter. J'ai même appris des leçons à quelques milliers d'euros pour apprendre à ne pas me dépêcher. Parce que c'est vraiment difficile pour moi dans cette époque. Vous savez, on vit dans une période de fast-food, TGV, les courriels, les cellulaires, les portables, téléphones portables, les voitures rapides, tout est fait pour aller vite. Et pour tout vous avouer, vous le savez, moi j'aime ça. Mais là, Dieu m'a pris vraiment à la racine de ma façon d'être en me disant, je veux que tu apprennes à ne pas te dépêcher. Au Maroc, mon pays natal, quand quelqu'un se dépêche, on lui dit, pourquoi t'es si pressé? T'es pressé de mourir? Et je veux apprendre ce genre de choses-là, parce que moi, j'ai fait partie d'une génération qui a appris que tout doit aller très vite. On s'habitue vite à ne plus devoir attendre, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est tellement habitué à ce que tout aille vite qu'il a cru que l'avion était déjà bien haut et il a sauté trop tôt. Mais ça, c'est tout à fait ce qui arrive à des personnes comme moi. On s'habitue vite à ne plus devoir attendre. Ça arrive. Et les conséquences de ça, c'est que dans nos vies, tous les feux sont au rouge. On a l'impression que dans tous les côtés, ça c'est un peu notre vie, avec chaque aspect de notre vie, et on regarde tous les feux en disant, c'est quoi ce que je vais... Les conséquences de tout ça, c'est que ma vie spirituelle ou notre vie spirituelle peut devenir superficielle. On prie comme un fast-food, c'est mécanique. On a une relation mécanique avec Dieu, sans révélation, sans cœur, sans se recharger. Tu sais, dis à ton voisin, t'es comme un téléphone portable, t'as besoin de te recharger. T'as besoin de te recharger. C'est vrai. Ensuite, on a l'impression, les conséquences de ça, du fait qu'on veuille vivre vite, la Bible est fermée. Il n'y a pas d'une parole qui inspire, qui instruit, qui convainc. Demande à quelqu'un, c'est quoi ce que la parole t'a instruit ce dernier mois? Et la personne va te regarder comme une poule qui a trouvé un peigne. Non? Superbe, superbe, magnifique. Alors quelques-uns, n'est-ce pas? Quelques-uns. Mais ça arrive à chacun d'entre nous à certains moments donnés de notre vie. C'est pourquoi on a besoin de faire pause. À ce moment-là, on a des relations, mais sans attachement ni profondeur. C'est juste, vous savez, le côté sympa, salut, commercial presque, avec tout le respect que j'ai pour tous les commerciaux, mais vous comprenez ce que je veux dire ici. Le côté juste jovial, superficiel, sans attachement, sans profondeur, sans intérêt réel pour la personne, sans avoir le désir d'écouter l'histoire de sa vie, on commence à perdre pied ici dans les relations. L'évangélisation, on n'a plus le temps d'avoir des amis non-croyants. On se plaint parce que chaque fois qu'on les invite à venir à l'église, ils nous disent « je n'ai pas le temps ». Et eux se demandent chaque fois que je voudrais passer du temps avec eux, ils me répondent « je n'ai pas le temps ». Nous leur reprochons de ne pas avoir le temps de venir dans notre église, dans nos groupes, mais eux peuvent très bien nous reprocher, nous n'avons pas le temps de nous intéresser à leur vie, de venir dans leur monde, et nos relations avec eux deviennent aussi superficielles et mécaniques, n'entrons pas dans leur monde. Et pour le service, on assure les urgences, on vit les pressions du devoir, on vit à l'arrache, comme hier, on disait avec Hervé. Souvent, à clé, c'est un peu ce que j'ai remarqué, à clé, la plupart des gens qui sont dans le ministère, alors je ne parle pas juste l'équipe ici, mais je parle à la sono, les musiciens, les enfants, nous sommes des acrobates de l'Église. On est toujours, je vous assure, si vous saviez les sauts périlleux retournés avec vrille qu'on fait pour que le culte ressemble à quelque chose, vous seriez impressionnés. Vous diriez, mais c'est pas une église, c'est un cirque. Il y a vraiment des acrobates. Parce qu'on est toujours en train, et t'as le trapèze qui passe, et c'est bon, je l'ai eu! Et tout le monde, ah, alléluia, c'est un miracle. On peut vivre un culte, hein. Mais on pourrait simplement décider que si on prend le temps, au lieu d'assurer les urgences, de vivre les pressions, de vivre l'acrobatie constante, on l'a eu à l'arrache. On pourrait le vivre simplement dans l'excellence. Il n'y a pas d'excellence dans l'urgence, ce n'est pas vrai. Vous savez la différence entre ce qui est bien et ce qui est excellent? L'attention portée aux détails. C'est tout. C'est que ça. On parle depuis tellement longtemps, l'excellence, c'est la seule différence entre ce qui est bien et ce qui est excellent, c'est l'attention portée aux détails. Eh bien, dans l'urgence, le détail passe toujours à l'as. On l'oublie toujours. Le détail ne compte pas dans l'urgence. Donc, c'est pourquoi il y a des conséquences de médiocrité. Avec tout ça, on a un potentiel gaspillé au lieu de donner le meilleur. Et Clé et Montpellier est digne d'avoir des églises, et une église comme la nôtre, avec les meilleurs. Le pasteur qui sert dans les meilleures conditions. Les musiciens servant dans les meilleures conditions. les ministères parmi les enfants dans les meilleures conditions, les diacres dans les meilleures conditions, et toute personne qui s'implique au service dans les meilleures conditions, au lieu toujours de donner à l'arrache. Je crois qu'en prenant une discipline spirituelle de pause, il y a quelque chose que nous allons retrouver de la vraie excellence, qui n'est pas simplement essayer de faire encore plus à l'arrache, plus d'efforts, mais avec une énergie, un souffle différent. L'homme ne vit pas de pain seulement, il vit d'une parole de Dieu. C'est ce que nous trouvons dans les moments de pause. C'est pas pourquoi j'ai mis des petits gâteaux avec des mots écrits dessus, énergie, et puis un petit cœur, etc. C'est parce que je trouve que ça, c'est des petites paroles légères, vous savez. C'est ce que j'appelle les prophéties gaufrettes. La petite prophétie, là, oui, je t'aime. Vous savez, comme on lisait sur les petits gaufrettes ou les petits gâteaux. Oui, je t'aime. Non, n'aie pas peur. Hein? Juste des paroles légères. Moi, quand je crois que l'homme vit d'une parole de Dieu, je parle d'une parole qui va nous marquer. Une parole qui fait que des mois après, tu t'en souviens. Une parole qui fait que tu es travaillé par cela pendant des semaines et des mois. Quand je vous dis que le Seigneur m'a dit en début octobre, je veux que tu apprennes à ne pas te dépêcher, je l'ai pas trouvé sur une gaufrette, celle-là. Elle m'a pris à rebrousse-poil. Elle m'a pris à contre... Gaufrette, c'est un petit gâteau. Elle m'a pris à contre-sens de ce que je suis et de ce que j'aimerais faire. Moi, j'aurais dit encore plus vite. Je veux que tu apprennes à ne pas te dépêcher. Et je vous assure que je travaille dessus, je prie dessus. J'apprends des leçons constantes, continuellement. Alors, Dieu est celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Alors, j'aimerais bien te proposer une chose. Et si toi... Tu disais, par exemple, je vois Christian et Nirina. Eh bien, nous sommes en février 2002. Qui étaient Christian et Nirina en 2006? Ceux qui étaient, qui sont-ils aujourd'hui? Qui seront-ils en fin 2007? C'est comme cela que nous devenons comme le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient. Eh bien, nous-mêmes, dans nos vies, quand nous faisons une pause, c'est le moment de se dire, qu'est-ce que j'étais? Qu'est-ce que j'ai vécu? On fait le point sur ce que nous avons vécu, ce que nous avons appris. On fait le point sur là où nous en sommes et on commence à cibler des objectifs de foi. C'est avec ça que je vais terminer pour cette prédication. Moïse écrivit leur marche de station en station. Il écrivait ce qui était, ce qui est, ce qui vient. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se souvenir? En anglais, se souvenir, c'est to remember. Et remember, c'est remembrer. C'est-à-dire, on rassemble les morceaux de sa vie. Et si on ne s'arrête pas pour se souvenir, c'est pourquoi le Seigneur dit toujours « souviens-toi ». Souviens-toi. Parce que au moment de la pause, tu commences à faire ce qui était. Tu ramasses les morceaux. Ce qui est. Et ce qui vient. Et ta vie, au lieu d'être une vie dispersée, éclatée, dilapidée, au lieu d'être un bout de viande éclaté en 1000 morceaux, tu commences à ramasser les morceaux de ta vie et à devenir « whole », c'est-à-dire une personne intègre, en pleine santé, une personne entière. C'est pourquoi nous avons besoin de remember. Nous avons besoin de nous souvenir, mais on ne peut pas se souvenir en courant. Mon ami Jean-Hubert Mazel, qui est un agriculteur, me dit toujours, le lièvre, tu peux l'attraper parce qu'il perd sa mémoire en courant. Il repasse toujours au même endroit après. Mais nous sommes un peu comme les lièvres. Quand on court, on perd la mémoire aussi. Il faut s'arrêter pour se souvenir. Il faut s'arrêter. Sans une période de pause, notre vie se disperse. Donc il nous faut des pauses de prière. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et pour le faire, ce qui m'aide beaucoup, c'est de faire un journal de marche avec Dieu. Vous le trouverez toujours dans ce chapitre, période de prière, du livre branché sur la vie, si vous voulez plus de détails, dans le journal de marche avec Dieu. Qu'est-ce que je fais dedans? Une des choses qui m'aide beaucoup, c'est de faire comme Samuel, un Samuel 19, il est dit, l'Éternel était avec lui, il grandissait, parce qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole du Seigneur. Alors il avait son journal de marche avec Dieu. Il ne laissait tomber à terre aucune parole du Seigneur. Lui aussi écrivait ce qui était, ce qui est et ce qui vient. Qu'est-ce qu'on écrit sur ce journal? On écrit les sujets de satisfaction. Qu'est-ce que tu vas faire dans tes 2 soirées de pause? Parce que tu vas me dire, tu es en train de me dire de faire 2 soirées ou 3. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je te donne le programme de ce que tu vas faire dans ces soirées-là. Pour pas que tu t'ennuies en train de dire, il a dit de faire des soirées, mais je sais pas quoi faire dedans. Donc, sujet de satisfaction de l'année écoulée. Où est-ce que tu as vu le Seigneur agir dans cette année écoulée? Dieu l'a fait. dans Genèse 1:31, après la création, il s'arrête, il regarde tout ce qu'il a fait et il a dit, ah, ça, c'était bon. Donc, je t'appelle à faire la même chose. T'arrêter et de voir les bonnes choses de l'année écoulée dans ta relation avec Dieu, ta famille, ton caractère, dans tes finances, là où Dieu a pourvu d'une façon spéciale, dans ta profession. Dieu est digne de louange. Et en repassant tout cela, en te souvenant, en remember, tu es en train de rassembler les morceaux des bénédictions de Dieu et tu en fais une offrande de louange. À ce moment-là, c'est une des belles choses que tu peux faire dans ta soirée de pause. La deuxième chose, mes progrès et mes leçons de l'année. Pareil, mes progrès. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette année? Qu'est-ce que j'ai appris dans ma relation avec Dieu? Qu'est-ce qui a changé dans mon adoration, ma prière? Dans mon amour pour le Seigneur? Est-ce que mon amour a grandi? Est-ce que je suis plus libre? Est-ce que c'est plus intense? Est-ce que j'aime le prier? Où est-ce que j'ai progressé? Qu'est-ce que j'ai appris dans ma relation avec Dieu? Dans mon caractère, qu'est-ce que j'ai appris? Où est-ce que Dieu a pu me former? Dans mes relations humaines, est-ce que je suis plus avenant? Est-ce que mon cœur s'ouvre davantage? Est-ce que la compassion a grandi en moi? Dans l'évangélisation, est-ce que le sort final des incroyants me bouleverse davantage? Est-ce que je suis capable de dire, Saint-Esprit, oh, je manque de souffle face à la multitude qui pourrait périr loin de toi pour l'éternité. Je manque de souffle. Oh Dieu, visite-moi, fortifie-moi. Et celui qui ressemblait à un fils de l'homme, dit Daniel, est venu vers moi, il m'a fortifié. Et Daniel a retrouvé un nouveau souffle. Mais combien j'ai besoin de cela? Dans mon travail, dans mon service à l'église, mes progrès. Et enfin, troisième chose que tu peux faire dans ces soirées-là, les paroles que tu as reçues. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de rassembler les morceaux d'une vie. Remember, tu rassembles les morceaux d'une vie. Ici, donc, le journal de marche avec Dieu, le sujet de satisfaction, mes progrès ou mes leçons, ce que j'ai appris dans l'année, et les paroles que Dieu m'a données. Là, c'est des vraies prophéties. Là, c'est des vraies prophéties. Là, c'est quelque chose que chaque croyant, charismatique en plus, devrait pouvoir faire. Non pas encore une fois la prophétie pour laquelle tu veux poursuivre quelqu'un pour lui dire ce que Dieu lui dit, mais je ne crois absolument pas, je n'accorde aucun crédit à une personne qui veut dire aux autres ce que Dieu leur dit, cette personne ne sait pas ce que Dieu lui a dit à elle-même. C'est pourquoi commence à entretenir et à honorer ce que Dieu te dit. Ne laisse pas tomber à terre les paroles de Dieu. Quand tu vas honorer la parole que Dieu te donne, il va honorer la parole que tu pourras donner pour d'autres, parce que tu vas la donner comme un débordement. Et c'est pourquoi, une autre chose que je t'invite à faire maintenant, puisqu'on vient de parler de 2006, tu finis l'année, et puis tu fais quelque chose que je fais depuis des années. Tous les lundis matin, demain matin, comme tous les lundis, je prie pour mes objectifs de prière et de foi pour l'année. Alors Yann, c'est cela, il m'a même proposé de m'envoyer, il l'a oublié après, mais il m'a proposé de m'envoyer son Atulala, superbe. Parce que vous savez, quand je prie pour mes amis, j'aime savoir quels sont leurs sujets de prière majeurs. Alors moi, j'écris toujours cela, et j'en ai 10. Et tous les lundis, je prie pour mes 10 objectifs de prière et de foi. Isabelle le fait aussi le lundi. Et c'est très simple. Tu prends 5 à 10 minutes, 5 minutes sur chaque sujet. Il y en a un ou toujours, ça s'ouvre davantage, plus fort. Et à ce moment-là, ton heure est très vite passée. Parce que 10 sujets, 5 minutes, ça fait 50 minutes. Et il y a toujours un où ça passe beaucoup plus fort. Donc, qu'est-ce que je veux cibler dans ma relation avec Dieu? Sur quoi je voudrais être plus amoureux du Seigneur ou plus dans la foi? Qu'est-ce que je veux cibler? De quoi j'ai besoin dans mon caractère, dans ma famille, dans ma destinée? C'est quoi ce que Dieu dit de moi et ce sur quoi je vais me battre et ne pas laisser l'ennemi me voler ma destinée? C'est quoi mes objectifs pour mon église, pour mon travail, ma façon de travailler, pour mes relations avec mes amis, dans l'évangélisation? C'est quoi mes objectifs? Et c'est pourquoi tous les lundis je prie pour mes, ce que notre ami appelait tout à l'heure VIP. Je leur dirai pas que JD les appelle VIP parce que ils ont du caractère, mes VIP. Donc, mais je les aime et le lundi, c'est le jour où je les apporte devant Dieu. Tous les lundis, parce qu'ils font partie de mes objectifs de foi et de prière, de les voir s'engager avec Dieu et de voir Gaëtan, que j'ai connu il y a pas longtemps, tellement une belle conversation avec lui, de le voir s'abandonner entre les mains du Seigneur. Et tous les lundis, mes finances et le développement de ma personne. Qu'est-ce que je veux étudier? Sur le plan physique, même sur le plan physique, j'ai des objectifs. Parce que je veux pas dépasser mes 80 kilos. Parce que même sur le plan physique, j'ai des objectifs. Parce que je veux pas non plus finir avec un cœur malade d'un pasteur lourdeau qui ne bougerait jamais. Donc vous allez dire, mais c'est complètement humain ce que tu dis là. Je vous apprends, révélation ce matin, le pasteur est humain. Alléluia. Et même sur le plan émotionnel, je veux développer mes émotions. Je veux me développer en tant que personne. Alors, tous les lundis, je fais mes objectifs de foi. Voilà une chose que tu peux faire. Si tu fais deux soirées, tes deux soirées de prière, c'est ça. Sujet de satisfaction, progrès et leçon de l'année et les paroles reçues. Tu fais trois soirées. La troisième soirée, tu écriras tous tes objectifs de prière pour cette année. Et je veux t'assurer que quand tu pries là-dessus le lundi, si tu fais un autre jour, tu fais un autre jour. Mais quand tu pries là-dessus le lundi, un jour dans la semaine, tu commences à cibler. J'aimerais vous dire qu'à la fin de l'année, toutes les flèches sont dans le mille, mais c'est pas vrai, ça ressemble vraiment à ça. Ça veut dire que parfois, certaines flèches sont dans le mille, et d'autres sont un peu à côté, et d'autres sont un petit peu plus à côté, et d'autres sont dedans, et je continue, et je recommence, mais je vois des exaucements. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je crois que quand tu vis sans objectif, tu crois que tu peux prendre ton envol, mais vite après un moment de prédication, après un moment de convention chrétienne, après un CD, après un DVD, tu commences à dire, ah, cette fois-ci, je l'ai. Mais si tu prends pas une vraie décision, écrite, eh ben, tu repars d'ici, et hop, t'as pris ton envol, mais tu refinis dans la boîte de ta petite vie médiocre dans laquelle tu retombes. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous parle pas juste d'émotion, je vous parle pas juste d'une imposition des mains à la fin, même si on va imposer les mains à tous ceux qui vont décider, ce mois-ci, je vais faire ma pause, retraite spirituelle, deux soirées, ou deux jours, ou trois soirées, je vais faire ma pause. Et donc, je crois que nous sommes appelés, et je termine ici, à faire en ce moment les chaînes de prière deux moines égyptiens qui ont terminé leur vie, enchaînés l'un à l'autre, et ils priaient. Quand un dormait, l'autre priait. Quand l'autre dormait, celui-là priait. Ils ont fait ça, ils sont morts ensemble, ils sont encore dans des momies, enchaînés l'un avec l'autre. Donc quand je parle de chaînes de prière, c'est pas de ça dont je parle. Mais les Moraves, eux, ont fait une chaîne de prière qui a duré 100 ans. En fait, c'était deux chaînes de prière, parce qu'il y avait les hommes et les femmes. Et les femmes priaient 24 heures sur 24, et les hommes 24 heures sur 24. On choisissait 24 femmes par jour, 24 hommes chaque jour. Et ça a duré 100 ans dans lesquels ils ont prié. Et je crois qu'il y a quelque chose de vraiment puissant ici. Chaque fois qu'il y a eu une percée, cette percée s'est faite non seulement par des gens qui ont fait un acte de bravoure, comme David qui a renversé Goliath, mais par des gens qui ont tenu dans la distance. Néhémie, quand ils ont reconstruit les murailles, ça a duré 52 jours. Tout au début de notre histoire d'église à Montauban, nous avons fait 52 jours de prière non-stop. 52 jours de prière. Vous avez dit, vous étiez nombreux? Non, 15. 15, 52 jours de prière non-stop. Chacun devait prier une heure pendant ces 52 jours. Et pour tout le projet que nous avions, mais 52 jours, nous sommes liés, comme par un serment, les jeunes fougueux. J'ai dit gueux à la fin, j'ai pas dit juste fou. Les jeunes fougueux pour voir la main du Seigneur agir. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne se passe que quand on tient la distance. C'est pourquoi le Seigneur dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir du Seigneur, point de repos pour vous. Ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse. Moi, je voudrais nous appeler aujourd'hui à la prière de toutes sortes. À la prière parce que je crois qu'il y a une puissance dans les relais de prière. Il y a une puissance dans les pauses que nous prenons. Je me souviens de mes 10 jours de jeûne. En 1986, une pause de prière, 10 jours, 7 jours en novembre 92, 7 jours en décembre 95 avec l'équipe qui est venue ici, 7 jours en octobre 97 et depuis régulièrement. Mon but en disant ces choses-là n'est pas d'essayer de vous impressionner parce que c'est pas du tout impressionnant. Il y a de comparer avec qui que ce soit. Il y a des gens qui ont réussi, qui jeûnent régulièrement 40 jours. Il y a des gens qui jeûnent 21 jours. J'ai jamais réussi à dépasser 10 jours. Je suis pas un gros jeûneur. Mais je sais une chose, j'apprends une discipline dans ma vie que régulièrement, je dois m'arrêter et dire, place maintenant, juste pour un moment à part, pause, je veux écouter mon Dieu, arrête et écoute, je veux évaluer ce Philippe qui était, Philippe qui est, Philippe qui devient et qui va devenir ce que Dieu veut. Ces moments de pause et de prière sont tellement puissants. C'est pourquoi je me suis réjoui d'avoir vu les 7 années de prière pour la France de 93 à l'an 2000. Quand nous avons fini cette période que nous appelons 7, 7, 7, Le mouvement de prière pour la France a commencé avec des livrets qui sont distribués chaque année en l'an 2000. Et c'est tellement précieux. Et ici à Clé, nous utilisons une semaine chaque année pour faire 168 heures de prière non-stop, jour et nuit. Ça va arriver très bientôt en mars. Je voudrais vous demander de vous inscrire plus que jamais. Je voudrais vous demander de vous inscrire, même s'il y a déjà d'autres inscrits. J'aimerais que cette feuille d'inscription soit remplie au maximum parce qu'un nouveau cap va arriver. Clé arrive dans une nouvelle saison. Pasteur Rodrigue devient pasteur principal. De la place va être laissée puisque je m'en vais. Mais je m'attends à une chose. Dans ce moment-là, il ne s'agit pas juste de regarder Philippe partir en disant « Oh, il est béni d'aller au Québec » ou alors « Le pauvre va avoir froid ». La question n'est pas là. La question est pour nous de dire spirituellement, il y a un vacuum qui est laissé, il y a un vide, il y a une aspiration, il y a quelque chose qui est là. On va occuper la place par une nouvelle mesure spirituelle. Arrêtons, écoutons, prenons les choses en main, écoutons notre Dieu. Je manque de souffle. Oh Dieu, nous avons besoin d'un souffle nouveau. C'est pourquoi j'appelle dans ce mois de février à ce que nous puissions nous impliquer deux soirées ou trois soirées dans le mois, trois soirées d'affilée, mais aussi... Il y a un tableau qui est au fond là-bas qu'on appelle les triplettes de prière. Je réalise que la mesure de prière dans notre église mérite d'être relevée encore pour trouver un nouveau souffle. C'est quoi une triplette? C'est deux ou trois personnes qui vont décider de prier ensemble un moment, une heure, une demi-heure, si vous n'arrivez pas à faire une heure, une fois par semaine, à peu près toujours à la même heure, le même jour. Si nous avons trois groupes par jour, ça veut dire nous aurons neuf personnes par jour. Et si nous avons 7 jours dans la semaine, ça fait 63 personnes. Avec 63 personnes qui prient dans une église de 200, 300 personnes avec les enfants. Avec 63 personnes qui prient régulièrement une fois par semaine. Nous pouvons amener une mesure spirituelle plus grande à Clé. Si nous décidons, toi et moi, on va s'accorder comme Jésus a dit, si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose. Et on va avoir les sujets communs et la mesure du souffle de Dieu va être renouvelé parmi nous. Moi, je m'attends vraiment à ce que Dieu nous touche. Aujourd'hui, en fin de culte, c'est le moment de l'appel. Je vais faire un appel pour deux choses. La première chose, ce sera personnes qui savent qu'elles doivent faire une pause spirituelle. Ça veut dire une retraite personnelle bientôt. J'ai besoin de faire le point. Je sens, j'ai besoin moi aussi d'une retraite spirituelle. Peut-être deux soirs ou trois soirs avant la fin février, je vais faire cela. Ces personnes-là vont se lever à leur place pendant qu'il y aura cette musique et vous allez vous lever à votre place, vous allez même vous avancer ici, nous allons prier pour vous. Le deuxième appel, c'est d'entrer dans ce mouvement. C'est moi qui vais mettre la musique, pardon. Le deuxième appel, c'est on va entrer dans un mouvement de prière qui nous engage dans ces 168 heures, mais aussi dans les triplettes. Deuxième appel, c'est pas seulement une prière pour vous, c'est vous qui vous engagez à prier aujourd'hui même. Je vais demander à Margaret qui coordonne la prière des triplettes, l'organisation des triplettes. C'est Patricia qui est responsable de la prière dans l'église, mais pour l'organisation, c'est Margaret qui le fait. Je vais demander de s'approcher là-bas au fond près des triplettes. Je vais demander à Patricia aussi d'aller au fond près de la porte. Et toute personne qui va aller s'inscrire, je vais demander juste à Patricia et Margaret de vous bénir. Sans faire une longue imposition des mains, mais dire « Seigneur, je bénis ces personnes, que l'esprit que tu m'as donné soit sur elles. » Et hop, c'est fini. Et vous partez. Mais je vais demander à tous ceux et celles qui sont interpellés pour s'inscrire, d'aller s'inscrire. Deux appels. Vous allez approcher ici. Vous levez et approchez. Si vous êtes décidé à faire cette pause, deux ou trois soirées. Et vous allez aller au fond vous inscrire, là, au-dessus de la tête de Katia, sur le panneau qui est là-bas. Et Patricia et Margaret vont prier pour vous. Seigneur, merci. Thank you. sur le téléphone l'ait dit, c'est Dieu qui t'appelle. Donc, cet appel auquel tu n'as pas répondu, answer his call. Répondez à son appel. Merci Seigneur. Jésus. Saint-Esprit, remplis ce lieu ce matin. Et je crois que tu nous appelles, tu nous attires à toi. Si au-delà de tout ce que j'ai dit, vous sentez le Saint-Esprit vous parler et dire oui, je veux que tu fasses cette pause, 2 ou 3 soirées, à votre place, levez-vous maintenant même. Si j'ai besoin de faire le point dans ma vie. Levez-vous et approchez-vous ici devant, même si vous voulez bien. L'équipe ministère va prier pour vous, vous bénir pendant cette retraite personnelle. Oh oui, Jésus. Et ensuite, si vous voulez vous engager dans ce relais de prière et les triplettes en particulier durant 4 mois, ou durant 2 mois ou 3 mois, engagez-vous en écrivant votre nom sur le tableau au fond. Merci Jésus.
Tu es mon désir.
Jésus. Alléluia. Écoute le Saint-Esprit t'appeler. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs. S'il y a encore quelqu'un ce matin qui veut dire, j'ai besoin de faire le point. Et j'ai besoin de prendre 2 ou 3 soirées ou 2 jours de jeûne dans ce mois. Et aujourd'hui même, tu vas les marquer sur ton agenda avant que le soleil se couche.
Montre-moi la voie qui me ramène.
Approchez encore plus devant. Et vous qui êtes devant ici, levez vos mains vers le Seigneur. Levons-nous tous ensemble à nos places. Levons-nous, que l'Église se lève devant le Seigneur de gloire. Je veux restaurer notre amitié, Seigneur. Dans ces soirées, dans cette retraite, je veux retrouver le souffle de ta vie.
Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer.
Dans tes bras.
Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie
qui me ramène,
à toi. Oh, chantons-lui, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout.
Je vais demander à l'équipe ministère si vous voulez bien approcher, commencer juste à prier pour les personnes qui s'avancent ce matin et pour leur période de retraite spirituelle, une retraite bientôt, ces 2 soirées, ces 3 soirées, ces 2 jours de jeûne, moment de pause, moment de gloire. Alléluia. Oh, il y en a d'autres ce matin, je sens comme le Saint-Esprit dira à certains, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Je te demande pas de répondre au message d'un homme. Je te demande pas de répondre à la voix de quelqu'un que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Je te demande d'entendre ma voix dans ton cœur au-delà de la prédication d'un homme. Je te demande de reconnaître que je t'ai déjà parlé que je t'ai déjà appelé à prendre ces moments à part. Pourquoi est-ce que tu résistes encore? Tu le sais dans ton cœur que c'est pour toi ce matin. Tu le sais que je t'ai appelé. Pourquoi est-ce que tu résistes? Il y a d'autres ce matin, il y a d'autres. Je sens les supplications du Seigneur, je sens l'appel de Dieu qui dit ne manque pas cette occasion, ne manque pas, t'es en début 2007, ne vis pas encore une année mécanique, ne vis pas une année de stagnation, tu as besoin d'un nouveau souffle, tu as besoin d'une nouvelle mesure, prends ces périodes à part, période de prière, période de jeûne, période d'étude, période de consécration, éteins ta télé et prends un moment à part, prends un moment à part. Prends un moment à part. Qu'est-ce que c'est? 2-3 soirées. Il y a d'autres ce matin. Si tu sais que le Seigneur te parle en ce moment, n'hésite pas à approcher. Alléluia. Jésus. Jésus. Si tu sais que le Seigneur te parle en ce moment, approche. Et s'il le faut, va aussi t'inscrire en ce moment même pour les triplettes au fond. Mais si tu sais que tu dois prendre cette retraite, approche ici devant et l'équipe des ministères va venir prier pour toi en ce moment. Alléluia. Si nous ne sommes pas assez dans l'équipe ministère, je vais même demander aux responsables des ados de nous rejoindre, de prier pour les jeunes qui sont là, les ados. Je ne sais pas s'il y a des leaders de groupes de jeunes ce matin, mais si vous voulez bien approcher, je sais qu'Olivier et Marisa sont en retraite de cours alpha avec l'équipe des jeunes. Mais peut-être si JD veut bien venir prier pour des jeunes ici, qui sont devant aussi. Alléluia. Oh Jésus, c'est les responsables de groupe de maison. Si Octavio veut bien venir prier aussi devant, s'il peut, je voudrais que tu viennes nous aider, Octavio, pour prier pour ceux qui sont là devant. Oh Seigneur, pose un moment dans ta vie, un moment de Dieu, un moment de renouveau.
Je ne veux que toi.
Saint-Esprit, agis ce matin.
Rien ne peut te
remplacer. Viens, Esprit de Dieu, dans ta puissance. Alléluia.
Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie.
Alléluia.
Qui me ramène.
Si Annie veut bien se venir prier pour certains.
À toi, oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner
et restaurer notre amitié.
Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir.
Je ne veux que toi.
Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer.
Dans tes bras, je suis rassuré.
Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi. Montre-moi la voie. À toi, chante en lui. Tu es tout pour moi.
Que l'église chante ensemble ce matin. Seigneur, tu es tout pour moi.
Toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Moi près de toi, tu es tout pour moi.
Sans toi,
je ne peux vivre.
Tu es tout
pour moi.
Garde-moi près.
Attire-nous près de toi, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui vont faire ces moments de retraite. Je prie, attire-nous près de toi, que l'on entende de nouveau ta voix. Seigneur, délivre-nous toute surdité, toute insensibilité. Délivre-nous du joug du prince de ce monde. Je proclame la liberté de ta destinée, la victoire de ta destinée sur nos vies. Je proclame qui sera contre nous si Dieu est pour nous. Je proclame ta libération sur nos vies. Que le ciel s'ouvre dans ce mois. Que ta bénédiction descende d'en haut. Que le monde angélique nous visite. Attire-nous près de toi, Seigneur. Oh, tu es tout. Seigneur, nous ne voulons pas repartir d'ici en ayant une illusion de liberté. Nous voulons repartir vraiment en prenant notre envol en toi. Attire-nous près de toi. Au nom de Jésus. Garde-moi près de toi.
Encore une fois, garde-moi,
garde-moi près de toi.
Hallelujah.
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 Oh, oh,
hallelujah.
Garde-nous près de toi, Jésus. Seigneur, je bénis tout ce mois de prière. Je prie pour que nous apprenions à vivre près de toi. Je prie que tu bénisses ces soirées où on va trouver nos objectifs de foi, de prière pour cette année. Fais de nous des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu. Fais de nous des flèches qui atteignent leur but. Je bénis chaque personne ici ce matin. Merci d'attacher nos vies à ta personne. Au nom de Jésus, à toi toute gloire. Merci Saint-Esprit, tu nous viens en aide dans nos faiblesses. Quand nous ne savons pas comment prier, tu nous équipes. Et tu nous ouvres le ciel. Nous te bénissons, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.